Ma radio.
Bonjour et bienvenue sur Ma radio. Nous sommes le mercredi 14 mai 2014 et il est 18h. Et oui, comme chaque année scolaire, celle de 2013-2014 touche à sa fin. Et c'est déjà notre dernière émission avant de prendre un nouvel envol. Alors ouvrez bien vos oreilles pour partager encore un instant de détente et de découverte avec vos chroniqueurs préférés. Cinéma, infos décalées, locales, geek ou people, musique, sorties culturelles, conseils culinaires et météo sont au rendez-vous. Un mélange de bien-être, d'aventure, de sensations et d'innovation à consommer sans modération. C'était Soda Can de Nico. Ma radio. Et tout de suite, la chronique du geek. L'émission l'émission ciné. Je disais bien l'émission ciné avec Pierre. Voilà. Bonsoir Pierre.
Donc la chronique du geek. Hein. Voilà. Bonsoir Anaïs, ça va ?
Ça va.
Eh non Anaïs, arrête de mentir, c'est pas la peine de faire la courageuse comme ça, je sais bien que t'es triste.
Ah effectivement, en ce moment...
Troublée même, je dirais, tourmentée, bouversée, désespérée, ça se trouve, oui, parce que c'est notre dernière émission de l'année.
C'est pour ça.
Eh oui, tu sais, moi-même, je ne suis pas loin de partager l'extrême dépression qui va t'habiter sitôt que sonneront les coups fatidiques du glas de 19h, que les carrosses redeviendront citrouilles, que les vaillants techniciens qui nous entourent regagneront leurs conditions de simples étudiants, et que tout cet arsenal high-tech de câbles, de micros et d'écrans, qui marche très bien d'ailleurs ce soir, retournera à son silence stoïque lorsque l'émission s'achèvera. Mais d'ici là, je ne vais pas te proposer, comme le dirait Indila, une dernière danse pour que tu oublies ta peine immense, mais plutôt pour tenter de te remonter le moral, de chroniquer cette semaine avec moi des films qui sont super joyeux.
Et qui sont ?
Eh, super joyeux.
Oui.
Oui. Et non, en fait, c'est une blague. Ah. Et non, cette semaine, ce sont deux films au sujet lourd et un peu déprimant auxquels on va s'intéresser. Mais je te rassure, Anaïs, comme je sais que tu as un petit cœur sensible, ce sont des films qui sont quand même de très bonne facture et qui, à bien des égards, valent le déplacement. Et oui, après les paillettes cannoises de la semaine dernière, c'est ce soir, loin de la Côte d'Azur, loin de la France et de l'Europe, que nous allons sur le continent du cinéma indépendant américain à petit budget et qui s'intéresse à des individus troublés et bouleversés. Un peu comme toi finalement, ils ont des malheurs eux aussi. Mais des films qui, à chaque fois, et malgré les sujets difficiles qu'ils abordent, présentent une note d'espoir et d'optimisme.
Nate, this is Grace. She's your new boss.
Nice to meet you.
I would lose a tie if I were you. Here we go. Remember, you're not their parent, you're not their therapist, you are here to create a safe environment, and that's it.
Et voilà, de retour dans la chronique du geek. Hein. Ce soir, on parle d'un film qui s'intitule States of Grace, ou Short Term 12 en anglais. Et en parlant d'anglais, je demande pardon dès à présent auprès de nos auditeurs les moins anglicistes, ou du moins les moins à l'aise en anglais. Mais il se trouve que le film n'a, à ce jour, pas été traduit en version française. Et donc, les extraits dont nous disposons sont en version originale. C'est pas pratique à la radio, Anaïs, hein, je sais bien.
Faut comprendre l'anglais. Hein.
Ouais, mais même si on comprend pas très bien l'anglais, les extraits donnent quand même un peu l'ambiance et le ton du film, et c'est pour ça qu'on les a conservés. Et donc, States of Grace, c'est l'histoire donc, de Grace, jeu de mots, hein, qui est jeune, sensible, attentive et déterminée, et à la tête d'un foyer pour adolescents en difficulté. Véritable colonne vertébrale du centre en question, Grace est respectée sans avoir besoin d'être crainte, elle qui arrive à gagner la confiance même des pensionnaires les plus mal en point. Et voilà, il se trouve qu'un beau jour, elle doit s'adapter à l'arrivée soudaine d'une fille un peu plus tourmentée que les autres, qui ignore les règles du centre et renvoie Grace à sa propre adolescence.
Everything good in my life is because of you.
I know the rules. No belts, no razors, no scissors, no fucking freedom.
No cussing.
Shit, I forgot about that one.
I told her father we'd take good care of her. Last week, she bit her therapist's nose.
Wow. She seems like a really nice girl.
Happy birthday.
Voilà, le propos du film est somme toute assez classique, hein. C'est des enfants, des jeunes ados en difficulté qui ont eu à faire face à des traumatismes, à des placements en famille d'accueil, etc. Mais ce qui est surtout remarquable dans le film, c'est le traitement de son sujet. À l'image des jeunes dont il parle avec une forme de douceur réparatrice, States of Grace semble constamment sur le fil, prêt à dégringoler, à sombrer dans des clichés de pathos et de lourdeur, mais sans jamais perdre cet équilibre et cette justesse, entre empathie, délicatesse, réalisme, sincérité et optimisme, témoignant par là même de la maturité de son réalisateur, Destin Cretton, dont c'est seulement le second long métrage et le premier exploité en France. Le réalisateur américain, donc, né à Hawaï, est en terrain familier avec States of Grace, non seulement parce que le film est inspiré de sa vie, et oui Anaïs, toi qui as une culture cinématographique immense, tu sauras très bien qu'il a lui-même été ex-éducateur, enfin qu'il a été éducateur dans un centre...
Je l'apprends.
Oui, oh non, c'est pas la modeste. Dans un éducateur de centre pour jeunes jeune à problème. Mais aussi parce qu'il avait déjà écrit et réalisé le court-métrage du même nom, sorti en 2008, avant de l'adapter cette année en long-métrage. Impressionnante maturité, je disais donc, du réalisateur, mais aussi de l'œuvre dont le propos, bien qu'en soit assez lourd, n'est jamais pesant et qui préfère suggérer qu'insister et asséner constamment. Maturité également pour l'actrice Brie Larson, qui interprète Grace, surprenante de générosité et de justesse, déjà aperçue dans Scott Pilgrim vs. The World d'Edgar Wright. Et qui porte cette fois-ci une talentueuse distribution d'acteurs inconnus et non professionnels dont la performance est pour chacun d'eux très réussie.
I am on the floor every day with those kids.
It's not your job to interpret tears.
Just once, take the advice that you give your kids and learn to talk about what's going on inside your head.
Sans forcer le trait, les moments de grâce promis par le titre sont bien là, faisant vœu d'optimisme face à la tristesse. Bien loin des super productions et typiques du cinéma indépendant américain, States of Grace réussit de fait un exercice difficile, transformer un sujet douloureux en un antidépresseur cinématographique aussi ambitieux que humble et surtout magnifiquement interprété.
Du coup, States of Grace, un film à aller voir au cinéma.
Oui, il faut courir le voir et il faudra suivre la carrière de Destin Cretton.
Quand vous avez fini de ce côté, on attaque à l'ouest.
Eh hey, monsieur, avec mon vieux, on arrive dans le coin et je voulais savoir, on cherche du taf, vous avez ça?
Ton nom c'est quoi?
Gary Jones.
Moi c'est Joe.
J'ai du boulot.
Contente pour vous, mes amours.
Je sais que t'as du fric quelque part, où est-ce que tu planques ton fric?
Voilà, autre histoire d'une adolescence difficile, toujours dans le cadre rural d'une classe populaire américaine qui subit encore et toujours l'inertie des effets de la crise financière, mais cette fois dans une petite ville du Texas. On parle, Anaïs, on parle de...
Joe.
De Joe, bien. Œuvre adaptée du roman éponyme de l'écrivain Larry Brown, publié en 1991 et réalisé par David Gordon Green, et avec Anaïs...
Le beau Nicolas Cage.
Et oui, avec Nicolas Cage et Ty Sheridan. On va faire vite fait le tour de l'histoire parce qu'elle est au final assez classique et qu'elle importe moins, je pense, que la façon dont elle est traitée. Donc là, je me suis pas embêté, hein. J'ai pris le résumé d'Allociné parce que c'est exactement ça. Dans une petite ville du Texas, l'ex-tolard Joe Ransom essaie d'oublier son passé en ayant la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Deux points. Le jour, il travaille pour une société d'abattage de bois. La nuit, virgule, il boit. Mais le jour où Gary, virgule, un gamin de 15 ans arrive en ville, cherchant désespérément un travail pour faire vivre sa famille, Joe voit là l'occasion d'expier ses péchés et de devenir, pour une fois dans sa vie, important pour quelqu'un. Cherchant la rédemption, il va prendre Gary sous son aile.
À quoi tu penses ?
À rien. Je peux rien faire. Je déteste ça. Je sais pas qui je suis. Mais je sais que de me maîtriser, ça me maintient en vie. Ça m'évite la tôle. De faire mal à des gens. Mais je regarde ce môme. C'est un gamin. Un laissé pour compte. Il est sur le fil. En équilibre.
Voilà, Larry Brown, l'auteur du roman, c'est, tu sais Anaïs, un spécialiste du style Wrath South.
Mais c'est quoi le Wrath South?
C'est littéralement le sud rugueux. Il nous plonge donc dans la noirceur du Texas profond, terre désertée depuis des lustres par la loi et la justice, où les mythes fondateurs de l'Amérique agonisent inexorablement et où les mobilhomes empestent l'alcool, la misère sociale, sexuelle, affective, qui est omniprésente au quotidien. Et c'est dans cette atmosphère moite et étouffante que David Gordon Green vient peut-être de trouver le juste équilibre entre le pathos et l'issue de secours, entre réalisme crépusculaire et féroce optimisme rédempteur après lesquels tant de films américains récents courent. Car Joe est une œuvre aussi cruelle que belle et arrive parfaitement à alterner et à faire cohabiter ces moments d'une grande violence avec des scènes et des plans pleins de grâce, entre réalisme du cinéma social et dimension contemplative qui rappelle de loin Terrence Malick.
Ce monde se crève au travail.
Et si quelqu'un fait des ennuis à ce gamin, ce gars-là aura droit à mon poing dans la gueule.
Qu'est-ce que tu crois? Que Joey va s'occuper de toi? Tu crois que c'est ton père? C'est moi qui m'occupe de toi.
La description de cette Amérique... De cette Amérique profonde, marginale, périphérique et renfermée sur ses propres codes, coutumes et mœurs est portée par une excellente nouvelle, Anaïs. La remise en selle de Nicolas Cage après ses nombreuses errances cinématographiques. Il avait fait plein de mauvais films avant. Et oui, à force de le voir dans des films de série Z, on avait pu finir par oublier qu'à la base, c'est un immense acteur. Et le personnage de Joe permet donc de le remettre à la place qui est la sienne, en même temps qu'il est l'occasion de découvrir, ou du moins de confirmer un nouveau talent, celui de Ty Sheridan, déjà aperçu dans Mud et dans The Tree of Life, qui incarne le rôle de Gary, le gamin de 15 ans que Joe va prendre sous son aile, rôle pour lequel il a reçu le prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir masculin à la Mostra de Venise en 2013. Dans la lignée de Mud, quelque part entre Gran Torino, Fighter, No Country for Old Men, Dallas Buyers Club ou encore 8 Mile, Joe a été nommé au Festival de Toronto, à celui du film américain de Deauville et à la Mostra de Venise, témoignant par là même de la qualité et de l'authenticité du traitement d'un sujet somme toute classique.
Eh bien, tu nous as fait découvrir deux grands films et beaux films à aller voir en ce moment cinéma, States of Grace.
Vraiment aller les voir, c'est vachement
Joe.
Mieux que Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et que Spider-Man 2.
Merci.
En tout cas, ça a été un plaisir de participer humblement à l'animation de ces quelques chroniques avec toi, Anaïs.
Mais de même, Pierre.
Voilà, je te dis pas la semaine prochaine, mais du coup. Alors, comme le disait Quentin Tarantino, Anaïs, qu'est-ce qu'il disait?
Vive le cinéma!
Ouais, vive le cinéma et allez Sochaux!
Et allez Sochaux!
So we talked and talked again all night long in my kitchen. Come here in my arms, isn't that cool? Put your head on my shoulder and cry all you can. It isn't fair, and I'm not responsible. It isn't fair. 26 with a bottle of milk, black suit and a face of a clown. How many tricks of your goods? How many goods do you give around? I'm still bound when I can't move. I stand in front of you. I'm flipping back the pages of the calendar. And you move. And to shake.
C'était Unfra de Le Galago. Et maintenant, la chronique geek, oui, la véritable chronique geek maintenant, avec Jocelyn. Bonjour Jocelyn.
Bonjour Anaïs.
Alors, quel va être le sujet aujourd'hui ?
Eh bien, nous allons nous demander pourquoi a-t-on toujours la sensation que les grosses productions de jeux vidéo ont perdu en saveur ? Et pourquoi retrouve-t-on parfois ce plaisir dans les jeux indépendants ou plus anciens ?
Très bonne question, mais je suppose que tu vas nous livrer la réponse.
Eh bien oui, ma réponse, c'est qu'on joue pour perdre, et qu'on ne perd plus. C'est le paradoxe du joueur. Dans quelques minutes, vous, et bien tu aussi, sera convaincu que le plaisir de jeu provient de la frustration.
Eh bien, nous t'écoutons alors.
Alors, reprenons dans l'ordre. À partir de 2005, les jeux ont pris la direction de la facilité. Cette direction a été déclenchée par la découverte du fait que les jeux élitistes se vendaient moins que les jeux faciles d'accès. La grande partie des licences existantes avant 2005 et ayant perduré par la suite permettent d'observer ce phénomène. Entre Splinter Cell premier du nom et un Splinter Cell Conviction, il n'y a pas photo. Les Mario 2D souffrent aussi depuis 2005 d'une baisse de la difficulté, les Resident Evil sont bien moins exigeants, etc. La conséquence positive, c'est que le nombre de consommateurs se tournent vers le jeu vidéo a augmenté. La conséquence négative, c'est que l'expérience de jeu est minimisée. Les vieux joueurs qui ont connu les game over définitifs ressentent alors qu'il manque quelque chose dans le plaisir de jeu.
Mais alors, qu'est-ce qui crée ce plaisir justement ?
Eh bien, c'est le déplaisir, Anaïs. Oui, le déplaisir. Vous êtes content d'avoir chaud car vous avez eu froid, vous êtes content de boire parce que vous avez eu soif. Vous êtes ravi de vous reposer parce que vous avez fait un effort, et ainsi de suite. Plus le chemin entre votre déplaisir et votre désir est grand, plus vous êtes content du nouvel état que vous atteignez. S'il existait un paradis sans aucun déplaisir, vous y développeriez très vite un syndrome dépressif.
Et dans le cas du jeu vidéo ?
Eh bien, pour augmenter le plaisir, il faut agrandir le chemin entre votre objectif et sa réussite, en vous mettant des bâtons dans les roues. C'est ce qu'on appelle la difficulté. Cette difficulté est réglée pour vous faire vivre obligatoirement des situations d'échec déplaisant. Il faut que vous ayez le sentiment de ne pas pouvoir réaliser immédiatement votre désir. Et ce sentiment de ne pas pouvoir réaliser son désir, c'est la définition exacte de la frustration.
Donc, plus on est frustré, plus le dénouement nous procure du plaisir.
C'est exact, mais voilà, un jeu difficile n'est pas nécessairement frustrant, car il y a des jeux difficiles mais dont la difficulté n'a pas particulièrement de rôle de frustration. C'est le cas d'une part lorsqu'un échec n'est pas puni sévèrement, vous recommencez autant de fois que vous voulez à un point de sauvegarde proche. C'est le cas d'autre part lorsque la difficulté est contournable ou non bloquante, puisque vous pouvez aller dans les options, changer les difficultés en temps réel ou bien passer la mission. Pour que la difficulté génère de la frustration et donc du plaisir, il faut qu'elle ait un côté punitif et non négociable. Il faut que la difficulté vous mette dans une situation d'infériorité de compétence, vous bloque sans échappatoire et qu'elle exige de vous un nouvel état de compétence. C'est ce dépassement de soi qui créer le vrai plaisir de jeu. Vous jouez avant tout pour le plaisir, donc pour être frustré. Donc,
pour perdre.
Et voilà, pour perdre. Pour ensuite jubiler d'avoir su réussir là où le vous d'il y a quelques heures a échoué comme une sombre tâche.
Alors pourquoi ne vend-on pas que des jeux difficiles dans ce cas ?
Eh bien, le jour où on a découvert que la frustration excitait le joueur mais que la difficulté le faisait renoncer, on a commencé à vous vendre de la frustration sans difficulté. Le plaisir est beaucoup moindre mais ça se vend bien quand même. Ainsi, beaucoup de jeux modernes ne sont pas difficiles mais simulent quand même un état de frustration artificiellement. Pour cela, le jeu freine votre progression en vous demandant de faire évoluer votre personnage vers un nouvel état de compétence symbolisé par son niveau. C'est par exemple le cas de jeux de rôle comme Skyrim.
Que voulez-vous dire par frustration artificielle ?
Eh bien, je parle de frustration artificielle car, la plupart du temps, en progressant, ce n'est pas vous qui vous améliorez, mais bien votre personnage qui devient plus performant. L'écrasante majorité des jeux trichent sur la notion de compétence en améliorant votre personnage au fil de l'aventure, plutôt que d'attendre de vous que vous soyez meilleur. Au contraire, dans les premiers Mario ou dans Super Meat Boy, le plaisir est différent. Car ce n'est pas votre personnage qui devient de plus en plus puissant, mais bien votre dextérité personnelle qui se développe. C'est là la grande différence entre un jeu à fort plaisir ludique et un jeu qui vous offre simplement une sensation de puissance tout à fait artificielle. Ainsi, Ainsi, les jeux dont le plaisir est authentique s'appuient sur de la frustration réelle, les échecs qui sont complets et durables. Le jeu vous domine pour vous forcer à améliorer votre propre maîtrise du jeu. Les jeux dont le plaisir est limité simulent la frustration tout en offrant une difficulté négociable. C'est le cas de nombreuses productions tout à fait soignées mais médiocres d'un point de vue du plaisir interactif.
Ah, c'est pour ça que dans Assassin's Creed par exemple, j'ai l'impression que c'est pas moi qui joue.
Exact, si tu as la sensation que ce n'est pas réellement toi qui joue dans ce jeu, c'est tout simplement que tu as compris la nouvelle architecture du gameplay moderne. Et voilà.
Ah bien, merci Jocelyn pour cet intéressant point de vue sur le jeu vidéo et actuel, plutôt philosophique d'ailleurs.
Merci. Et puis je t'en prie, à bientôt.
Et tout de suite.
L'instant décalé.
Et tout de suite, l'instant décalé avec Margot. Bonsoir Margot.
Salut, salut.
Alors, que nous as-tu préparé ce soir ?
Plein de choses. Plein de choses. Alors, il paraît que tu joues à Assassin's Creed. J'ai entendu ça ?
Oui, un tout petit peu.
Oui. Bon, je vais pas te parler de ça, je suis désolée. Hein. Alors, j'ai entendu dire que tu avais été très envieuse la semaine dernière d'avoir entendu Nicolas jouer au tabou et pas toi.
Oh, oui, j'adorais ce jeu.
C'est vrai ? Tu veux qu'on joue ?
Allez, on joue.
Un seul mot, hein, parce qu'après, j'ai d'autres trucs, ok ?
Oui, oui, d'accord.
Bon, allez, j'essaie de te faire découvrir un mot, alors. Au fait, bonjour à tout le monde. Hein. Alors, on y va. On y va pour acheter des trucs.
Magasin ?
Ah ouais, mais on y va pour acheter des trucs qui sont encore meilleurs. Des sucreries.
Genre qu'on mange. Une chocolaterie, une boulangerie.
Une boulangerie, putain, t'es trop forte. T'es trop forte, on va arrêter de jouer parce que t'es trop forte. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler. J'ai un petit pincement au cœur. Hein. C'est quand même la dernière fois que je te vois ici, en face de moi, près de ton micro. On était pourtant très près, intime, enfin bref. Bon, alors du coup, comme c'est la fin, on va certainement faire une soirée, faire une fête et s'amuser. J'ai une bonne nouvelle parce qu'on a quand même des révisions à faire. Hein. J'ai une bonne nouvelle, il y a des scientifiques qui ont enfin trouvé, qui auraient trouvé un remède contre l'ivresse.
Ah.
Donc du coup,
ils ont juste à boire, ça marche. Hein.
Oui, mais alors du coup, quand t'as bu et que c'est trop tard, tu vois ce que je veux dire ? Tu connais ce moment-là ?
Oui, je
voilà.
Vois.
Et bah du coup, il y aurait une pilule qu'ils ont essayée sur des petites souris. Ils ont fait boire des petites souris. J'ai pas vu l'expérience, ça devait être rigolo. Et ensuite, ils auront administré un petit cachet. Ouais, bah, s'ils mettent un gros cachet, ça rentre pas. Et du coup, ils se sont rendus compte que la souris, elle perdait le taux d'alcool qu'elle avait dans le sang. Et donc du coup, ça pourrait éventuellement marcher pour des humains ou tout ça, quoi.
Et sans aucune conséquence ?
Alors... Tu sais, je regardais ça sur Internet, alors on peut pas se fier à tout ce qu'on lit, mais en tout cas, ça pourrait éventuellement marcher sans grandes conséquences. En tout cas, c'était pas stipulé dans ce que j'ai lu. Donc voilà, pour les prochaines soirées, éventuellement, si ça marche, ça pourrait être efficace.
Bah pourquoi pas.
Voilà, alors comme c'est l'instant décalé que je peux dire à peu près tout ce que je veux, à peu près, en restant dans le cadre, j'ai vu une info qui était très intéressante et je tiens à la faire partager à tout le monde. Il paraît qu'il y a des araignées qui ruinent une partie de leur cerveau dans les pattes. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai trouvé ça marrant. Donc voilà, je le fais partager à tout le monde et j'espère que tout le monde sera content pour ça.
Je suis très heureuse de l'apprendre.
Bon, alors je vais arrêter tout ce qui est insolite, je vais arrêter tous les jeux oubliés, tous ces délires que j'ai eus pendant 6 émissions, que j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec toi.
Mais qu'on a pris du plaisir à écouter aussi. Hein.
C'est gentil, c'est gentil. Et du coup, alors j'aimerais juste savoir combien de temps il me reste. 2 secondes. 30 secondes. Alors, durant ces 30 secondes, j'aimerais juste remercier toutes les équipes qui ont participé à ces émissions. Toi, Anaïs, ainsi que Nicolas, ainsi que tous les techniciens son qui ont travaillé sur cette émission. C'est la chronique décalée, je fais ce que je veux. Hein. J'aimerais aussi remercier notre professeur qui a permis qu'on soit ici tous ensemble et qu'on puisse partager tout ça avec les premières années ainsi qu'avec les deuxièmes années. Et j'aimerais remercier tous les deuxièmes années qu'on va quitter d'ici quelques jours. Et en espérant qu'il fasse un bon vent et que tout le monde aille là où il veut. Voilà, j'embrasse tout le monde et les auditeurs aussi qui nous ont suivis pendant 6 semaines. Et puis voilà.
Et on remercie Margot aussi qui a été là pendant les 6 émissions et qui nous a fait rire.
Écoutez, merci à vous. Et puis gros bisous. Et puis l'année prochaine, vous aurez encore plein de trucs décalés, pas par mois, mais aussi bien, j'en suis sûre.
Merci Margot. Wicked and strange. est 18h45 et tout de suite les infos.
Maintenant, les infos.
Bonsoir Mathias.
Bonsoir Anaïs.
Alors, présentez-nous un peu les infos locales.
Alors, les titres de l'actualité. Sécurité routière, les chiffres du pont du 8 mai 2014. Le trail d'effort de Besançon a attiré plus de 3200 participants. Manifestation de l'AFP, Association des paralysés de France, à Besançon. Les Restos du Cœur de Montbéliard recherchent 1000 choristes pour le concert du 25 janvier 2015 qui aura lieu à l'Axone.
Et d'abord, la sécurité routière.
Oui, sécurité routière. Durant le pont du 8 mai au 11 mai, les forces de l'ordre ont relevé 299 infractions relatives à un excès de vitesse, 30 procès-verbaux pour alcoolémie, 2 conduites sous l'emprise de stupéfiants, 36 rétentions immédiates du permis de conduire, 50 immobilisations de véhicules. Les opérations de contrôle ont porté sur toutes les catégories de véhicules, sur l'autoroute A36, sur les routes nationales comme sur les routes départementales et communales. Il est regrettable de constater que certains automobilistes sont peu soucieux de la sécurité de tous et n'adoptent pas les règles élémentaires de prudence et de vigilance, dans leur conduite. Regrette la préfecture qui signale qu'un automobiliste a été verbalisé pour grand excès de vitesse à Faleyrand. Il a été contrôlé à 148 km/h au lieu de 90 km/h. Vitesse retenue est de 140 km/h, soit un dépassement de 50 km/h de la vitesse autorisée. Une rétention immédiate de son permis de conduire a été effectuée. Et maintenant, trail des châteaux de Besançon. Après avoir attiré 2500 coureurs en 2013, il en a attiré 3200 participants sur ce nouveau parcours de 19, 27 et 47 km. Il s'inscrit comme un des rendez-vous incontournables de France. L'épreuve intègre désormais le Trail Tour National Long 2014. Hier a eu lieu une manifestation à l'appel de l'Association des paralysés de France. Place de la Révolution à Besançon. Alors, ils militent à cause de la non-mise en application de la loi sur l'accessibilité des lieux publics aux personnes en situation de handicap en France. Ce qui reste un problème.
D'accord.
Loi qui était à la base de 2005, qui est toujours en attente. Et maintenant, les Restos du Cœur de Montbéliard.
Eh ben, on vous écoute.
Alors, les Restos du Cœur de Montbéliard recherchent 1000 choristes pour le grand rassemblement du 15 janvier 2015 à l'Axone. Mais alors pourquoi ?
Eh ben pourquoi ?
Son but serait de participer au financement de l'agrandissement des locaux afin de pouvoir accueillir plus de monde.
Ah, un beau projet !
Les locaux étaient devenus trop exigus.
D'accord. Eh ben je vous remercie Mathias pour toutes ces infos.
Eh ben de rien.
Et tout de suite, la météo.
La météo.
Bonsoir Violaine.
Bonsoir Anaïs.
Alors quel temps fait-il en ce moment ?
Eh bien demain, le matin, le ciel sera gris avec des risques d'averses, mais dans l'après-midi, les éclaircies laisseront place au soleil et les températures iront de 5 à 15 degrés. Vendredi, eh bien ce sera le grand retour du soleil qui sera parmi nous toute la journée. Attention cependant, le matin, les températures ne dépasseront pas les moins 1 degré, mais l'après-midi, le soleil nous réchauffera. Pour ce week-end, eh bien, il fera beau, même très beau, avec un ciel très peu nuageux et les températures atteindront 16, voire 18 degrés.
Ben merci de nous apporter le beau temps.
Mais de rien.
Take my number and my name.
C'était Red Light de Larry Smith, un Unfinished Busy. Et maintenant, la chronique, les 120 secondes People.
120 secondes People.
Bonsoir Cassandra.
Salut Anaïs.
Salut, salut.
Et salut à tous. Alors pour commencer cette chronique, étant donné que c'est la dernière, patati patata, on va commencer par un petit quiz. Alors comme tout le monde le sait, et comme tout le monde le fait aussi, les people débutent toujours par un petit métier, alors les métiers à la con bien sûr. Et donc je vais te demander savoir si tu sais un peu et ta culture people. Alors attention, oulala, on va commencer avec Orlando Bloom. Alors sais-tu son premier job?
Pizzaiolo.
T'étais pas loin, enfin disons qu'il rechargeait plutôt les pigeons en argile, tu sais, dans un centre de tir.
Sympa.
Ouais, 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 c'est pour aider les gens, hein, comme d'accord, les pizzas, c'est sympa. Et sinon, Harrison Ford, saurais-tu trouver? Je vais peut-être te présenter. Alors, tu as le choix entre charpentier et enseignant.
Charpentier.
Bingo.
Oh,
oh, t'es forte. Finalement, je vais peut-être plus de rien te dire, ça sera plus simple. Madonna.
Stripteaseuse.
Et ben t'es pas loin, mannequin de charme, mais elle faisait aussi vendeuse de donuts. Mine de rien, ça devait être marrant de la voir comme ça. Et Florence Foresti pour la petite dernière, une petite française.
Oula.
Alors
caissière.
Là, c'est beaucoup plus sérieux. Alors hôtesse de l'air.
Hôtesse de l'air.
Infographiste ou journaliste.
Journaliste.
Non. Je te laisse deuxième chance.
Hôtesse de l'air.
Non plus.
Infographiste.
C'était infographiste. Oui, c'est ça. Et pour la dernière des dernières. Ok. Après, j'arrête. Sais-tu la personnalité, enfin, quelle personnalité française est classée dans les plus cool en Amérique?
J'ai des choix.
Absolument pas.
Will Smith.
Bien sûr, c'est une personnalité française, Anaïs. J'avais de l'idée. Non, pas du tout. Donc du coup, c'était Loana, hein.
Oui, oui, c'est ça.
Alors,
ça me surprend.
Ouais, plutôt. Hein. Donc cette dernière est l'une des personnalités citées dans un magazine américain. Ce magazine donc dévoile un classement de 40 Françaises les plus chics. Voilà, elle en fait partie.
Loana chic.
C'est une sacrée surprise. Hein. Et en parlant de surprise, cette année, la boule, donc le personnage emblématique de Fort Boyard, oui, ne sera pas au générique. Donc Yves Marcheseau, de son vrai nom, hein, se stoppe pour des raisons de santé.
Moi, je l'aimais bien.
Ouais, c'est couillon. Hein. Voilà, on va spoiler l'émission, du coup. Non. Voilà, on est d'accord. Et donc, pour le spécial Franche-Comté d'aujourd'hui, donc là, je déteste Margot, puisqu'elle m'a piqué ma super idée de remercier tout le monde. Alors, je vais faire un tout petit remerciement pour dire de le faire quand même. Alors, merci à tout le monde et tout, pour l'équipe, et à peu près tous les animateurs. Et je voulais vous faire tous des petits bisous fruités et croustillants. Et voilà. Merci. Et du coup, j'en sais pas à Margot.
Oui, non. C'est des bisous fruités aussi.
Ah, c'est mignon.
Et tout de suite, les sorties culturelles. Bonsoir Cyrielle.
Bonsoir Anaïs.
Alors, qu'est-ce que passe-t-il? Où peut-on sortir?
Alors, ce week-end, vous pouvez partir à Strasbourg pour l'Orchestre Philharmonique qui vous convie pour une représentation unique. Lors de la saison 2012-2013, l'orchestre était attaqué au célèbre Requiem de Verdi dans une version destinée à être vue et entendue par le plus grand nombre, et notamment des non-habitués des salles de concert classiques. Là, pour la saison 2013-2014, l'orchestre se donne un nouveau défi. C'est un ciné-concert, Anaïs. Alors, tu sais ce que c'est?
Bah, y a un ciné et un concert.
C'est ça. Et le film choisi est un film connu de tous. C'est Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp en tête d'affiche. La musique sera jouée en direct donc par l'orchestre de Strasbourg, dirigé par Helmut Immig, qui donne une nouvelle dimension à ce film, bien sûr. D'accord. Sera ce samedi 17 mai à 20h et les tarifs varient de 5 à 11 euros. Alors, si vous préférez partir un peu moins loin ce week-end, la nuit des musées se déroulera à Mulhouse. Ce sera ce samedi 17 mai de 14h à minuit. Ce sera donc l'effervescence dans la ville. Et que vous décidiez de vous attaquer au parcours famille, qui est un peu plus facile, ou aventure pour espérer atteindre la grande finale nocturne au Kinépolis et peut-être gagner un voyage sur les îles Zanzibar, il faudra être rusé et trouver les bonnes réponses à la série d'énigmes se trouvant sur votre carnet de jeu. Donc ces mystères, ils vous emmèneront au musée des Beaux-Arts, à la cité de l'automobile, cité du train et bien d'autres encore. Donc il faut profiter parce que c'est entièrement gratuit.
D'accord.
Voilà.
Eh ben merci.
Bah de rien.
L'assiette du jour.
Et tout de suite, la recette, l'assiette du jour avec Méline. Bonsoir Méline.
Bonsoir Anaïs. Alors, pour cette dernière émission, j'ai laissé Lorraine, étudiante en gestion, choisir la recette, qui a donc voulu faire un petit clin d'œil à sa région. Ce sera donc une salade alsacienne. C'est une recette pour une à deux personnes, pardon, pour un temps de préparation de 30 minutes. Il vous faut 3 pommes de terre, 150 g de poitrine fumée, du cervelas, un radis noir, un oignon, de l'huile et du vinaigre. Commencez par faire cuire les pommes de terre durant 20 à 25 minutes. Pendant ce temps, taillez la poitrine, coupez le cervelas et le radis en morceaux. Émincez l'oignon. Faites une vinaigrette. Une fois les pommes de terre cuites, coupez-les en morceaux et y ajoutez l'oignon, la poitrine, le cervelas, le radis et la vinaigrette. Il ne vous reste plus qu'à déguster ce plat, soit froid, soit chaud, comme vous le souhaitez.
Bonne salade.
Voilà maintenant, Lorraine, toi qui nous écoutes, j'espère que tu as pris des notes car on attend ton invitation.
À bientôt, Lorraine.
Et au revoir, Méline.
Mama Jungle de Fresh Body Shop. Et tout de suite l'émission musique.
Bonjour à tous, installez-vous. C'est à peu près ce que me disait mon professeur de français tous les mardis et jeudis matins pendant environ 2 ans de ma piètre scolarité au collège, rythmé entre mauvaises notes, comportements insolents et rébellion permanente. Seulement voilà, ce cours de français c'était un peu différent. Je n'avais pas envie de montrer que j'étais malin ni de faire rire un tiers des élèves, parce qu'au collège déjà 2/3 de mes camarades ne riaient pas à mes blagues. Je préférais rester assis là, écouter tranquillement. Déjà à cette époque, je me disais que c'était putain de bien fait, qu'on nous enseignait des choses intelligentes, que derrière nous, il y avait des gens qui réfléchissaient, qui bossaient, qui avaient créé des choses. Et je l'entendais parler de Rimbaud, qui avait fugué à 17 ans, tandis que par la fenêtre, je voyais l'herbe verte jouer dans le vent. Toutes ces choses si belles qui n'attendent que d'être effleurées et qui toujours plus me disaient de venir. Mais c'est des contraintes que se créait l'art. Voilà comment je me consolais, voilà comment mon frère avait réussi à me consoler quand il voyait que je passais des heures de cours à dessiner des têtes de mort, des murs sans destin et des petits chiens arc-en-ciel. Les mouvements artistiques étaient les meilleurs quand il s'agissait de se battre contre quelque chose. Même si je me souviens... Pardon, je dis n'importe quoi, mais si je ne me souviens... C'est le matin hier soir. Mais si je me souviens si bien de ce professeur de français, c'était pour ce t-shirt particulier qu'il portait si souvent. Une banane, voilà ce que c'était. Et entre mes dessins et le temps que je perdais à regarder dehors, j'aimais étudier cette forme particulière, jaune teintée de noir, et cette inscription, « Peel slowly and see ». Et le temps a passé, j'ai grandi, j'ai écouté du rock, du blues, et je suis passé par tout un tas de trucs en oubliant l'essentiel. À Noël, j'ai reçu un bouquin appelé « Le dictionnaire du rock » de mon frère, encore une fois. Et le premier article que j'ai lu concernait Lewis Alan Reed, Lou Reed. À ce moment-là, ce personnage n'est qu'une entité pour moi. Un nom que je connaissais, sur lequel je ne savais pas encore poser de son ni d'image. Comme tout le monde, il y avait bien Perfect Day, Walk on the Wild Side, mais rien de plus. Ce jour-là, j'ai plongé la tête la première, dans un univers long de quelques milliers d'années. Ce jour-là, j'ai appris à connaître celui qui allait m'inspirer pendant des années, changer ma vie. J'ai compris mon professeur de français, j'ai compris la banane. Je suis rentré en connexion avec Lou Reed. Ah, et oui, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si court. Alors, je vais. Est-ce qu'on se la remettrait pas? Parce qu'elle est quand même vachement bien. Normalement, moi, je la mets en entier, comme il y a de la musique et tout. C'est Sweet Jane, hein, de l'album Loaded du Velvet Underground. C'est possible de la remettre? Écoutez cette intro psychédélique.
Standing on the corner, suitcase in my hand, jacket's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding us starts back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Now
And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die.
Andy Warhol considère Lou Reed comme le prince de la nuit et des angoisses. Je n'ai écouté que ça pendant des mois, et bien qu'en tant que personne bien portante assise sur les acquis sociaux que dispose la France et l'éducation tendre que j'ai subie, j'ai été aidé par cet être. La chanson Rock'n'Roll évoque la vie de Jenny qui, à 5 ans, trouve l'espoir dans une chanson de rock écoutée sur une radio new-yorkaise.
When she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard. Saved by rock and roll. Despite all the amputations, you know you could just go out and dance to the rock and roll station. It was all right.
It's all right.
Hey, baby, you know it was all.
Le 27 octobre 2013, Lou Reed est mort. La veille, je faisais un concert dans une ville un peu trop froide du nord de la France où nous clôturions une tournée française avec le groupe dans lequel je joue. En ramenant un bon ami à moi en voiture ce soir-là, qui est aussi notre producteur, j'ai naturellement discuté de musique. Nous avons mis Bowie et j'ai parlé de Lou Reed. Nous avons discuté de son influence, de l'album Transformer, produit par David Bowie et sans doute un des meilleurs albums de Lou Reed. Puis je suis rentré chez moi. Le lendemain, je reçois un message d'un ami qui me dit simplement « Mec, Lou Reed ». Comme un adolescent conscient de la rapidité de l'information sur les réseaux sociaux, je me dirige vers mon ordinateur pour comprendre de quoi il parle. Les titres sont unanimes. L'ami que j'avais ramené la veille me dit que c'est de notre faute, car nous avons parlé de lui. Seulement, je parle toujours de lui. Mon esprit se fige quelques instants et alors que j'étais très bavard, mes parents me demandent à présent ce qu'il y a. Je crois que Louride est mort. Mon père, qui m'avait initié à son art, est lui aussi choqué. Je leur explique que je vais aller dans le garage réfléchir un peu. J'emporte avec moi de quoi produire un son quelconque et descends directement sans dire un mot de plus. La première chanson que j'ai décidé de passer fut Perfect Day, comme un pseudo-fan en manque d'inspiration. Pourtant, toutes les larmes de mon corps se sont instantanément déversées pendant d'interminables minutes. J'étais cet adolescent qui s'était un peu trop attaché à une star. Je pleurais Louride alors qu'il n'aurait jamais pleuré pour moi. Et comme pour Cobain, Morrison, Hendrix, nous étions sans doute des milliers à nous repentir, seuls dans nos chambres ou dans un garage. Le jour du décès de Louride, j'étais un peu trop seul. Mais heureusement, ce que j'ai remarqué plus tard, en fait, c'est que déjà j'ai perdu mon texte là, sur l'ordinateur. Celui qui m'avait tant aidé n'était plus là. Jamais je n'entendrai sa voix. Je devais sans doute me faire à cette idée. C'était comme ça. Et puis dans un court instant, une petite seconde, le gamin en manque d'espoir, sanglotant à moitié, relève les yeux, sèche ses larmes et affiche un léger sourire. Le jour du décès de Louride, c'était un dimanche matin.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Merci d'avoir suivi notre sixième et dernière émission de l'année 2013-2014.
Merci. De rien, Anaïs.
Merci beaucoup, Julien. Merci aussi à toute l'équipe éditoriale.
De rien, Anaïs.
À nos techniciens.
Oui, de rien.
Pour le travail fourni avec plaisir.
Vous, toujours avec beaucoup de plaisir.
Oui, et vous pouvez sans doute retrouver ma radio l'année prochaine avec d'autres chroniqueurs et d'autres sujets.
Mon cul, ouais.
Ah, c'est sûr. Cependant, si ma radio vous manque, vous pouvez toujours réécouter les contenus de nos émissions sur www.radio.btsaudiovisuel.com ou juste pour écouter le son de nos voix.
Ça, c'est une sacrée idée.
Et pour ma part et celle de l'équipe, nous vous souhaitons de bonnes vacances et la réussite pour tout le monde. Merci.
Ma radio.